éléments que je vais citer au cours de la séance. Donc d'abord, ça c'est de la partie, ils ont référence philosophique, sociologique, et après, les auteurs, les romans noirs et les auteurs que je vais citer. Pendant la séance, donc ça c'est la partie disons, philosophie sociologique. Claudio Magris, le livre La note Clarisse, sous-titré Grand style et nihilisme dans la littérature moderne de 1984. À chaque fois, c'est les éditions originales. Et donc, quand c'est des auteurs étrangers comme Magris qui est italien, c'est l'édition italienne. Utopie des enchantements, 1999. Ça, c'est simplement pour repérer des noms qui sont plus connus. Pierre Bourdieu, je vais en parler. Poltanski, F. Chiavello, j'en ai déjà parlé. Et je finirai sur une question de philosophie autour de Clément Arrossé, La philosophie tragique, 1960. On verra que ça a un rapport avec Nietzsche. Et Maurice Merleau-Ponty, L'humanisme et terreur, 1947. Donc, ça, disons, c'est la partie des références analytiques. Entre les deux, j'avais déjà indiqué la dernière fois, mais pour ceux qui n'étaient pas là, une partie de ce que je vais dire a été amorcée dans mon livre La société de verre pour une éthique de la fragilité, donc c'est un livre maintenant ancien de 2002. Alors, il y a une série de romans noirs que je vais signaler, d'auteurs. Hein. En général, ils sont américains, sauf un cas exceptionnel, j'ai mis GB, c'est un anglais, Robin Hood, un anglais qui vivait en France. Donc David Goodis, 1917-1967, Retour à la vie. Là, il y a beaucoup de livres, hein. C'est sans doute un des auteurs les plus importants. Retour à la vie, 1938, Rue Barbare, 1952, c'est les titres français, ça. La lune dans le caniveau, 1953, La blonde au coin de la rue, 1954, Sans espoir de retour, 1954, et Vendredi 13, 1954. Donc, Robin Cook, le britannique, 1931-1994, il est mort, les yeux ouverts, 1983. James Lee Burke, né en 1936, prisonnier du ciel, 1988, et James Cromley, 1939-2008, Le dernier baiser, 1978, Pute, 1988, et Les serpents de la frontière, 1996. Donc en fait, je vais me référer uniquement, disons, à cette partie de roman noir et à ses ressources, disons, en philosophie, en sciences sociales. Alors, je vais faire une petite transition avec la séance de la semaine dernière. Le cours en trois séances concerne le thème donc sens et crise du sens, donc dans les sociétés contemporaines, avec l'idée de déboucher sur l'idée d'une hypothèse d'une spiritualité non religieuse. À chaque fois, il y a un croisement plus ou moins important en fonction des séances entre des ressources issues de la sociologie et des ressources issues de la philosophie. Donc la semaine dernière, pour la première séance, en dehors de l'introduction, j'ai envisagé le contexte social et historique de la question du brouillage du sens dans nos sociétés, donc que j'ai appelé métaphoriquement société de verre parce que fragilisante pour les individus et pour les institutions, donc une forme métaphorique. Dans cette caractérisation du contexte du brouillage du sens aujourd'hui, j'ai appréhendé deux caractéristiques importantes de ces sociétés contemporaines. Une première qui a été privilégiée dans le cours, ça correspond à mes travaux, leur caractère individualiste, donc l'individualisme contemporain, à travers notamment les ambivalences de l'individualisme contemporain, donc en envisageant à la fois les aspects les plus négatifs et les plus positifs de cet individualisme contemporain. Deuxièmement, leur caractère capitaliste de ces sociétés, dans une analyse disons, d'inspiration marxienne, avec des contraintes à la fois structurelles qui pèsent sur et inégalitaires qui pèsent sur chaque individu, mais aussi l'idée de contradiction du capitalisme, c'est-à-dire l'ouverture à des possibilités d'émancipation. Donc cette première séance indiquait le contexte du brouillage du sens, aujourd'hui, était principalement, on peut dire, sociologique. La séance d'aujourd'hui s'intéressera au brouillage du sens contemporain à travers un matériau particulier, qui est un matériau littéraire, donc le roman noir, le polar principalement américain. Donc là, on verra qu'on croisera des questions philosophiques et sociologiques. Et la semaine prochaine, pour la dernière séance, je tenterai donc de suivre le fil d'une spiritualité non religieuse qui répondrait au problème du brouillage du sens contemporain. Donc tout ça, disons, je l'ai dit, c'est amorcé dans mon livre de 2002, La société de l'air. Alors la séance d'aujourd'hui, donc j'ai intitulé ça un matériau à tonalité philosophique et sociologique sur la crise du sens, le roman noir américain. Alors, je vais faire comme l'a fait d'ailleurs Marjolaine Pierre dans ses cours en avril dernier, où elle est partie des frères Karamazov de Dostoïevski. Donc c'est l'idée d'utiliser des matériaux littéraires pour traiter des questions philosophiques et là aussi des questions sociologiques. Ce qui est moins habituel, disons, par rapport à une vision académique, soit de la philosophie, soit de la sociologie. Pour faire ça, j'inscris mon travail dans quelque chose comme une philosophie littéraire, ou plutôt une philosophie à partir de la littérature, qui a été très bien esquissée, à mon avis, très magnifiquement esquissée par un écrivain italien qui a à la fois fait des romans et qui en même temps est un spécialiste de la littérature européenne, qui est Claudio Magris. En fait, il vit à Trieste, à la frontière de l'Italie et de l'Autriche. Et c'est un livre, son grand livre de 84, L'anneau de Clarisse, à mon avis, ce sont les plus. Enfin, pour un questionnement philosophique, c'est le plus important. L'anneau de Clarisse, grand style et nihilisme dans la littérature moderne. Donc, c'est. Il prend comme matière les grands romans de la fin du 19e et de la première moitié du 20e siècle européen pour traiter des questions philosophiques. Clarisse, pour ceux qui le disent, connaissent ce roman, est un des personnages importants d'un des grands romans contemporains, enfin, modernes, inachevés d'ailleurs, de Robert Musil, L'homme sans qualité. Et c'est Clarisse, c'est la pianiste, une des deux pianistes qui joue en certaine sorte un personnage nietzschéen dans le roman. Et L'homme sans qualité joue un grand rôle, disons, dans le livre de comme fil conducteur dans le livre de Magris. Donc philosophie littéraire, c'est-à-dire une attention à la portée philosophique de la littérature, mais aussi, parce que je suis sociologue, à sa portée sociologique, dans un registre qui est différent de la philosophie, comme de la sociologie, celui de la littérature. Donc, entre sociologie, philosophie et roman noir, il faut envisager tout à la fois les spécificités de chacun des genres ou des registres culturels, pour ne pas mélanger tout, parce qu'il faut éviter de tout mélanger l'ensemble des registres intellectuels et culturels dans un grand tout, à la manière postmoderne où tout serait dans tout, sans qu'il y ait plus de distinction de repères ou de critères de ce qu'on fait. Donc il faut à la fois envisager les spécificités des registres, et en même temps envisager des analogies entre les deux, avec un dialogue possible transfrontalier entre ces registres sur différents. C'est un peu comme ça que je conçois cette philosophie littéraire et sociologique. Suppose déjà des registres distincts et un dialogue, disons, entre ces registres distincts. C'est dans cette perspective que le roman noir peut participer de ce que Magris appelle le grand style de la littérature moderne, en tout cas européenne. Je cite comment il le caractérise dans son livre. Le roman moderne serait en fait l'anti-épopée du désenchantement, de la vie fragmentaire et désagrégée, en comptant souvent l'histoire d'un individu à la recherche d'un sens qui n'existe pas. Le roman moderne serait en fait l'anti-épopée du désenchantement, de la vie fragmentaire et désagrégée, en comptant souvent l'histoire d'un individu à la recherche d'un sens qui n'existe pas. Donc, la façon dont Magris traite le grand style de la grande littérature moderne européenne correspond assez bien à nos problèmes de sens et de brouillage du sens. Et le roman noir, américain principalement, est assez bien ajusté à ce type de questions. Pour autant, même si c'est une anti-épopée du désenchantement, une histoire d'un individu à la recherche d'un sens qui n'existe pas, le roman moderne comme le roman noir n'ont pas abandonné, selon Magris, la question du sens. C'est-à-dire qu'à la fois la question du sens fuit, mais en même temps elle n'est pas abandonnée. D'où la tonalité souvent mélancolique de ces romans, dans, d'une certaine façon, les tensions entre les déchirures vécues du non-sens et la quête du sens qui est maintenue. Il ici, il y a des choses intéressantes dans un autre livre de Magnus, qui est un recueil de textes, qui s'appelle « Utopie des enchantements » de 1999, où Magnus fait un lien intéressant, nouveau, entre désenchantement et utopie. Il écrit notamment « Le désenchantement est une forme ironique, mélancolique et aguerrie de l'espérance. » Le désenchantement est une forme ironique, mélancolique et aguerrie de l'espérance. Donc le désenchantement n'est pas l'opposé de l'espérance ou de l'utopie, mais peut-être une forme prise par l'utopie. Le mot même de désenchantement suppose un rapport à un enchantement antérieur, chronologiquement ou du moins logiquement, comme une sorte d'étalon, plus ou moins implicite, du vécu de la désillusion. Donc s'il y a un vécu de la désillusion, c'est qu'il y a un rapport à une illusion ou un enchantement antérieur ou un étalon de l'enchantement de l'illusion. Pour Magris, alors, le désenchantement corrige l'utopie. Et donc, il lui donne une totalité plus intéressante, même. C'est-à-dire, il fait que l'utopie ne se complaise pas dans un optimisme béat. En fait, il laisse de l'utopie de pessimisme. Donc, avec cette vision de l'utopie qui est passée par le désenchantement, on ne repartirait pas comme avant, avec les seules boussoles des lendemains qui chantent. Mais on aurait été lesté par l'expérience du pessimisme. Donc on aurait incorporé un sens du tragique, c'est-à-dire une conscience des événements qui nous échappent et qui peuvent, d'une certaine façon, nous écraser, ou écraser le rêve du tout. Cette vision du rapport entre utopie et désenchantement n'est pas inintéressante pour nous, après les tragédies politiques du XXe siècle, puisque ça nous permet peut-être de ne pas abandonner l'aiguillon utopique sans, d'une part, nous noyer complètement dans un discours fataliste ou cynique, mais sans non plus reprendre le discours utopique comme avant. Et donc les philosophies mélancoliques qui travaillent un certain roman noir américain ont quelque chose d'un art funambulesque, c'est-à-dire qui est justement situé dans une sorte d'équilibre instable, de déséquilibre dynamique entre différentes contradictions, problèmes. Alors, cet art funambulesque du roman noir américain, je vais le décomposer donc en quatre mouvements. D'abord, l'expression du désenchantement. Après, des passages entre la question philosophique du sens et la dimension sociologique de la critique sociale. Puis, face à cette crise du sens, je verrai qu'il y a une double tentation. Soit le retour vers des absolus religieux, soit le vide nihiliste. Et enfin, en quatrième pan, j'indiquerai la possibilité d'un autre sentier, qui pourrait constituer une première façon d'envisager spiritualité non religieuse, c'est-à-dire un film utopique éteint du peut-être. Et je terminerai sur des questions philosophiques avec Clément Rosset et Merleau-Ponty. Donc je me suis centré sur quatre auteurs, trois Américains, donc David Goodis, James Lieber et James Cromley, et un Britannique, Robin Gould. Ce qu'il faut d'abord noter de transversal par rapport à ces quatre auteurs, en rapport avec la séance de la semaine précédente, c'est que les héros, plutôt les anti-héros de ces romans, sont fortement individualisés, avec même des tendances à une certaine solitude. Donc ces anti-héros s'inscrivent pleinement dans les caractéristiques de l'individualisme contemporain. Et de manière ambivalente, d'ailleurs, ces tendances individualistes des anti-héros du roman noir participent tout à la fois de leur force et de leur faiblesse. On retrouve ces ambivalences qu'on a vues la dernière fois. Participent à la fois de leur rêve, d'ailleurs, et de leur mal-être social. D'ailleurs, on peut dire peut-être que dès le carrefour des années 1920-1930, c'est-à-dire là où naît le roman noir américain, d'abord avec Dashiell Hammett, puis avec Raymond Chandler, les anti-héros du roman noir américain préfigureront certains traits individualistes qui vont être élargis par la suite à des populations plus vastes dans les années, disons, 60 et 70. Donc on peut dire même qu'on trouve une certaine préfiguration de questions qui vont être élargies à des populations plus importantes par la suite. L'importance aussi que je donne là au roman de Goodis dans les années 50. Alors, le premier temps, c'est le temps des désenchantements. Alors, roman noir, noirceur du désenchantement, c'est très net chez les bouddhistes, hein, qui est un auteur très noir, on peut dire, hein, pas très drôle, et en général, c'est une image. Quelques exceptions, mais en général, c'est une image. Donc d'abord, dans Vendredi 13, Black Friday, de 1954, le personnage Art a suivi un parcours du désenchantement comme ça. Quand il se retourne vers sa jeunesse étudiante, il voit des promesses. Aussi, à l'époque, Art était alors un jeune homme romanesque qui adorait errer seul à l'aventure pour recueillir des impressions. Au moment du roman, il a presque 34 ans, et vers quoi il est poussé? Le vide, le néant. Voilà le typique du désenchantement de la caractère noire du roman noir américain. Un personnage d'un autre roman bouddhiste, Rue Barbare, Street of the Lost, 1952, lance ceci. Le couvercle saute, l'eau déborde, on ne peut pas échapper à ça, on ne peut pas échapper à la douleur. Même si on fait semblant de l'ignorer, elle est toujours présente. Donc chez bouddhiste, même le noir de l'existence a souvent la forme d'un engrenage aux accents fatalistes. Donc il y a une dimension fataliste chez le bouddhiste. C'est le cas par exemple du personnage Celia dans Sans espoir de retour, Spirit of No Return, 1954. Nous n'aurions pas dû commencer, maintenant je crois que c'est trop tard. Il y a cette dimension de fatalité qui pèse fortement chez Bouddhiste. Alors, le noir du roman noir n'est pas vu simplement à travers les accents fatalistes. Avec, disons, le climat des années 70 qui va teinter le roman noir d'humour et d'ironie contestataire, on va, disons, alléger un peu le poids de la noirceur, mais en la traitant autrement avec une dimension ironique. C'est le cas de James Cromley. En tout cas, dans son chef-d'œuvre, Le Dernier Baiser, The Last Good Kiss, 1978, son détective Sugru plante le décor de son existence. On voit le noir, mais on voit bien que c'est pas exactement. L'ironie donne une autre tonalité que celle du bouddhisme. Ça faisait une paye que je causais tout seul moi aussi. C'était exactement ce que j'étais en train de faire de l'après-midi où l'ex-femme de Traherne m'avait appelé, assis dans mon petit bureau de Meriwether en Montana, à contempler la benne poubelle du prisonnier. Débordé dans la rue par derrière, en train de me dire que ça m'était égal, que les affaires soient au point mort, en train de me dire qu'en fait, ça me convenait parfaitement. Donc l'humour de Cromley, l'ironie, allège un peu la noirceur du bouddhisme tout en la maintenant, de toute façon, dans une tonalité différente. Donc premier moment, le désenchantement, la noirceur du désenchantement. Deuxième temps, le rapport entre la question du sens et la critique sociale, donc entre une dimension, disons, plus philosophique et une dimension plus sociologique. On peut dire que, en tout cas, c'est le cas, c'est pas le cas de tous les romans noirs, mais chez Bouddhiste et Cromley, il y a comme un cadrage sociologique de la quête du sens des personnages. D'abord, chez Bouddhiste, il y a un roman particulièrement important ici, où le questionnement existentiel va être complètement accroché à une analyse quasi-sociologique. Les deux vont être particulièrement mêlés, alors que chacun en même temps va renvoyer des registres autonomes. C'est ça qui est très important. C'est La Lune dans le caniveau, The Moon of the Goethe, 1953. Donc le personnage principal, William Callaghan, c'est un beau-père de 35 ans qui habite Vernon Street, une sorte de rue terrible de la déchéance sociale. Et on va voir comment les rapports de classe propres aux sociétés capitalistes vont peser fortement sur les itinéraires individuels, sans pour autant effacer les singularités respectives des différents itinéraires individuels. Alors, William est hanté par le suicide de sa jeune sœur après un viol. La question philosophique du sens de l'existence est constamment agitée en lui, à partir de cette question du suicide de sa sœur. Cette interrogation existentielle n'est pas d'ailleurs le simple produit des contraintes sociales, sans pouvoir être détaché des contraintes sociales. C'est-à-dire comme il y a souvent l'idée qu'on peut détacher la question du sens des adhérences sociales, des contextes sociaux et des contraintes sociales qui sont ceux des individus. Là, non. À la fois, l'interrogation existentielle n'est pas la simple détermination de contraintes sociales, et en même temps, elle ne peut pas être détachée des contraintes sociales. On peut dire que l'interrogation existentielle déborde le sociologique tout en étant tramé par lui, tout en étant fabriqué avec lui. C'est comme si Bouddhiste avait trouvé une articulation originale entre ce que n'ont pas trouvé ni les philosophes ni les sociologues pour l'instant, entre une philosophie existentielle et une critique sociologique. Sans que la première, la philosophie existentielle, soit la couche profonde sur laquelle surnagerait le second, ça c'est la tendance des philosophes à croire que ce qu'ils traitent c'est le plus fondamental, donc c'est en dessous, et au-dessus c'est, on appelle l'empirique, le social, etc., c'est moins important. Donc il n'y a pas cette idée de couche profonde philosophique du sens ou existentielle et une couche superficielle qui serait le social, mais on n'a pas non plus l'idée, comme certains sociologues, pour qui la question du sens et de l'existence ne serait qu'un simple sous-produit des conditions sociales, un simple produit des déterminations sociales. On n'a ni l'un ni l'autre. Les deux niveaux chez Goudis apparaissent noués l'un à l'autre, sans qu'il y ait une hiérarchie des niveaux, et sans que l'un ne soit irréductible, ne soit réductible complètement à l'autre. On voit bien ça dans la rencontre amoureuse de William avec une femme d'une autre classe sociale, qui va l'entraîner dans des horizons différents. Malgré la persévérance de cette femme, Loretta Channing, ça va s'avérer impossible. En fait, William apparaît alourdi par la fatalité de sa condition. C'est très proche d'une figure qui a été travaillée dans les années 70 par Bourdieu, qu'il appelle la causalité du probable. C'est-à-dire, le rapport subjectif à sa propre trajectoire sociale vient renforcer les probabilités sociales objectives. C'est-à-dire que, croyant à la fatalité du social, je finis par faire advenir cette fatalité en ne saisissant même pas des quelques possibilités qui me permettraient d'en échapper. Cette idée de causalité du probable. Un passage de la Lune dans le caniveau est intéressant de ce point de vue. Puis soudain, elle disparut de ses pensées et tout le reste de même, sauf les choses qu'il avait devant les yeux. La rue pleine d'ornières, le caniveau et les seuils défoncés des maisons délabrées. Cela le frappa de plein fouet, cette prise de conscience inévitable qu'il traversait la vie avec un billet de quatrième classe. Et puis à la fin du livre, son histoire et celle de sa sœur se rejoignent dans une sorte de double fatalisme social et d'une tragédie existentielle. Je cite encore un passage. « Et quel que soit l'endroit où les plus faibles se cachaient, ils ne parvenaient jamais à échapper à la lune de Vernon. Donc, c'est Vernon Street. Elle les tenait pris au piège, elle les tenait pris dans leur destin. Tôt ou tard, ils seraient mutilés, démolis, écrasés. Ils apprendraient à la dure que Vernon Street n'était pas un lieu pour les corps délicats et les âmes timides. » Donc, ce poids de la fatalité sociale qui va conduire à la séparation finale avec Loretta, qui est décrite ainsi. Elle avait les yeux humides. Et elle dit, si on pouvait seulement, mais non, on ne peut pas, dit-il. Tu ne vois pas ce qui se passe, on n'est pas sur les mêmes rails. Je ne peux pas vivre à ta façon et toi tu ne peux pas vivre à la mienne. C'est la faute de personne, c'est juste la façon dont les cartes sont distribuées. Donc, dans ce roman de Goudis, une association, une façon d'accrocher à la fois la question existentielle du sens de l'existence et la question des contraintes sociales extrêmement intéressante, avec une dimension fortement fataliste par rapport à la dimension sociale. Chez Cremblay, la critique sociale se fait plus immédiatement politique. On peut dire que la critique sociale se fait à l'intérieur de la décomposition 68arde, donc la décomposition désespérance 68arde, qu'on a pu connaître aux États-Unis comme en France, et le mouvement, disons, de récupération néo-capitaliste des désirs 68ards, des désirs d'ailleurs. Et c'est dans ce cadre que souvent cette décomposition 68ards que prend sens les romans de Cremblay et le portrait qu'il fait de la société américaine. Il résume bien ça d'une phrase dans un recueil de nouvelles de 88 intitulé Put Words. Drogue, sexe et rock'n'roll n'est plus le cri de la liberté, mais un slogan commercial de plus. Donc on a là une transformation par rapport au rêve 68ard, récupéré par le capitalisme, coup, on rejoint ici les analyses dont j'avais parlé en sociologie, Luc Boltanski et Schiavello dans Le Nouvel Esprit du Capitalisme de 1999, sur cette, disons, récupération dans la machine capitaliste d'une partie, disons, des aspirations soixante-huitardes. Donc, premier temps, désenchantement, noirceur. Deuxième temps, une façon d'associer la question existentielle du sens et la question sociologique des contraintes sociales, notamment des rapports de classe. Troisième temps, une sorte de double possibilité face au brouillage du sens et au désenchantement, soit le retour aux absolus, soit les séductions du vide. Donc face aux noirceurs et au désenchantement, les héros du polar américain, notamment, sont tentés par deux voies, le nihilisme et le retour à une forme de stabilité du religieux. Alors on verra ça dans deux romans, deux auteurs qu'on a vu jusqu'à présent, Robin Cook et James Lieber. Si on veut voir du côté des séductions du vide, avec des proximités avec un essayiste français, qui est une composante philosophique qui est devenu français, mais qui est d'origine roumaine, Sioran. On trouve ça chez Robin Cook, c'est-à-dire la découverte de la part d'arbitraire et d'absurde du monde tire les héros de Robin Cook vers le vide. C'est particulièrement le cas donc dans le roman Il est mort les yeux ouverts, il a une vue, His Eyes Open, 1983. À la fin, l'avenir est complètement noir. Le narrateur qui est flic va trouver la mort, qui est une sorte de forme ultime de la reconnaissance du non-sens de l'existence. Les dernières lignes du roman. Je voulais prévenir quelqu'un que je savais tout maintenant. J'étais devenu tout froid, et je voulais prévenir quelqu'un que je savais très bien que tout était devenu sombre, que bientôt il ferait très sombre, trop sombre pour que j'y voie encore, que j'entende, peut-être que je sache, voire même que j'ai besoin de voir, besoin de savoir où j'allais. Et peut-être lorsqu'il ferait complètement noir, que la paix du noir deviendrait semblable à la lumière, en sorte que ma dernière expérience deviendrait aussi mystérieuse, aussi musicale que la première, si bien que dans ma dernière obscurité n'existerait peut-être plus le même besoin de comprendre quelque chose d'aussi lointain que le monde. Donc chez Robin Cook, il y a une sorte de... On finit sur une sorte de sentiment d'absurde de l'existence, de séduction du vide par la mort. Mais Cook en même temps demeure un moraliste, comme Sioran d'ailleurs, et d'une certaine façon le constat du vide se détache souvent sur fond de nostalgie des rêves du plein. Donc il n'y a pas un abandon du vide, le vide est toujours corrélé à l'idée d'un plein, donc de rêve d'ailleurs. Les espérances se sont fracassées sur les duretés du monde, sur le non-sens du monde, mais elles sont toujours là, en creux, comme une sorte de boussole éthique, mais un peu détraquée. On n'a pas là une sorte de dissolution postmoderne de tout idéal dans une sorte de complaisance effrénée à l'égard de soi, mais on a une morale déçue menant logiquement à la mort comme acte éthique. C'est ce à quoi conclut Sioran d'ailleurs, dans son livre La tentation d'exister, le seul acte éthique vraiment qui reconnaisse l'absurdité du monde, c'est le suicide. Mais Sioran n'a jamais fait. Autre tentation face au désenchantement, le retour au religieux. Ce retour au religieux, on le trouve donc dans le Beaux-Arts louisianais, James Lieber. Donc dans la Louisiane, notamment dans la série, disons, des romans de Louisiane de James Lieber, avec le personnage du flic Ed Robichaud, on a notamment un prisonnier du ciel, Evans Prisoner, 1988, et Robichaud, disons, est un ex-alcoolique, qui va faire le passage par les alcooliques anonymes. Et donc, via le passage par les alcooliques anonymes, on va avoir un travail sur soi d'inspiration religieuse, une morale chrétienne et la figure de Dieu qui vont refaire leur apparition à travers les alcooliques anonymes, qui est une des dimensions, disons, des alcooliques anonymes. Soumis aux aléas de l'existence, à ses malheurs, une raison simplement humaine ne suffirait pas à trouver un équilibre. Et donc, il faudrait recourir à un au-delà mystique indispensable. Je cite un passage de Prisonnier du ciel. Il m'arrive alors parfois de me remettre en mémoire un passage des psaumes. Je n'ai aucune perception théologique. Ma morale religieuse a connu bien des vicissitudes. Mais ces lignes semblent me suggérer une réponse que la raison ne réussit pas à m'offrir. À savoir que les innocents qui souffrent pour le reste d'entre nous sont sanctifiés et aimés de Dieu d'une manière spéciale. Leur vie, comme autant de cierges votifs, ont fait d'eux des prisonniers du ciel. On pourrait dire que la fragilité humaine, dans la lucidité de ce qui échappe aux humains, aurait besoin d'un sens qui la dépasse, qui l'englobe, autrement elle risquerait de se briser en mille morceaux. Ce retour à Dieu ne va pourtant pas sans heurts dans le personnage de Robichaud, sans difficultés, sans doutes, et notamment sans retour à l'alcoolisme. Mais la possibilité du vide n'a pas été totalement effacée. On peut dire qu'il y a le retour à Dieu, mais la possibilité du vide, d'une certaine façon, se maintient toujours en embuscade, dans un coin d'expérience potentiellement réactivable. Mais, et donc, Robichaud va croiser de nouveau, souvent, ses anciens démons. Mais, pour échapper à ces démons, c'est comme s'il avait besoin de cette figure d'absolu Dieu. Donc, deux tentations par rapport à ce climat de noirceur et de désenchantement, une tentation des séductions du vide, du non-sens de l'existence, menant à la mort, ou la tentation de retour à des absolus religieux pour donner une stabilité à tout ça. Quatrième et dernier temps, c'est peut-être la possibilité d'un autre cheminement. Ça serait quoi ce double cheminement? Ça serait peut-être contenir le désenchantement. Contenir au sens de incorporer et de restreindre. Quand on dit qu'on contient quelque chose, c'est qu'on l'a à l'intérieur de nous, donc il fait partie de l'expérience. On a à s'affronter à lui parce qu'il est interne, il n'est pas externe. Et en même temps, contenir, c'est comme on contient une âme adverse, c'est d'empêcher que ça se développe. C'est en ces deux sens, de contenir le désenchantement, l'avoir à l'intérieur de nous, mais en même temps l'empêcher qu'il déborde, qu'il se développe, il est intéressant de trouver une possibilité. Donc contenir au tout sens d'incorporer, de restreindre l'expérience du désenchantement et la possibilité du non-sens. Et est-ce que ça c'est possible sans faire appel à un absolu stabilisateur? C'est en tout cas, il me semble, une voie qui se dessine en pointillé et de manière hésitante dans une série de polars américains. C'est-à-dire que malgré les désenchantements, dans certains romans, l'utopique se maintient. Dans Le Dernier Baiser, le détective Suguru donc, va partir à la recherche d'une femme, Betty Sue, qu'il ne rencontre qu'après une longue série de péripéties, donc à un moment donné, simplement du roman, ou bien presque, pas tout à fait, mais presque à la fin. Et dans cette rencontre, cette femme qu'il recherche pour un client, hein, au départ, la magie du baiser va représenter, ou le titre, Le Dernier Baiser, une sorte de sortie humaine du noir, comme s'il y avait une sorte de trouée utopique qui donnait une sorte d'intelligibilité à un monde déglingué. C'est un passage. Et elle s'est penchée pour m'embrasser légèrement sur le coin de la bouche. Un baiser de grande sœur, mais son haleine sentait les herbes, les fleurs séchées et l'eau de source, bonne et rafraîchissante. À 10 heures, alors, elle est chuchotée. C'est là que je l'ai embrassée sur la bouche. Ses lèvres se sont entrouvertes légèrement, nos langues se sont touchées un bref instant électrique et ses yeux se sont agrandis et se sont assombris d'un bleu orageux. Je suis désolé, elle a fait, s'excusant pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait, quelque chose qu'elle ne voulait pas faire. On peut dire que si on prend ce fil du baiser comme une sorte de trouée utopique, il est ténu. C'est-à-dire que, et les choses s'arrêteront là entre Suguru et Betty Sue. C'est-à-dire que même si, à la suite de cette scène, il va lui sauver la vie, il refusera de faire l'amour avec elle, justement parce qu'il est amoureux d'elle et qu'il sent que ce n'est pas réciproque. Comme si c'était une façon de se tenir entre le tragique et l'utopique. Mais en même temps, le souvenir du baiser de Betty Sue aidera Suguru à résister aux appels du non-sens. C'est-à-dire comme s'il y avait dans ce baiser une des expériences humaines de l'éternité. Une expérience humaine de l'éternité, mais justement pas divine, humaine. Transcendant nos doutes, mais dans la relativité de brefs moments d'existence. Une expérience humaine de l'éternité, mais une éternité humanisée, non divine, fragilisée. Bref, ce qu'on appelle, dans le sens, dans le vocabulaire ordinaire, en rapatriant la question de l'éternité du divin à l'humain, ce qu'on appelle instant d'éternité. C'est-à-dire ces instants dont on a l'impression qu'ils valent plus que les quelques secondes ou les quelques minutes que sont durées. Et qui en même temps est une expérience humaine. Se dessine alors ici la figure d'un peut-être. Peut-être l'adverbe est intéressant, l'adverbe est le verbe, les deux verbes. Dans peut-être, le verbe être est caractérisé par le possible, peut. Donc l'être est caractérisé par le possible. Mais un tel possible est marqué par le doute et l'incertitude, puisqu'on l'adverbe peut-être marque le doute et l'incertitude. Donc l'être est marqué par la possibilité, l'être c'est une possibilité, mais en même temps marqué par l'incertitude, le doute introduit par l'adverbe peut-être. Si on déplace ces analyses, disons, linguistiques dans un contexte philosophique, on pourrait alimenter l'idée que l'être serait tout à la fois défini par la possibilité et par l'incertitude. Et donc, pas par une nécessité absolue, qu'elle soit positive ou négative. Chez Goudis, cette figure du peut-être apparaît directement dans La Blonde au coin de la rue, The Blonde in the Street Corner, 1954. Je cite. Tout ce temps passé, c'était un pari sur l'avenir. Leur numéro sortirait peut-être un jour, ou il ne sortirait jamais. Mais tant que les dés n'avaient pas cessé de rouler, il y avait toujours un certain éclat dans ce qu'ils faisaient. Le simple fait de se dire que leur numéro sortirait peut-être, ou qu'il pouvait ne jamais sortir, peut-être, et encore peut-être, ou peut-être pas. Mais tant qu'il y avait un peut-être, il leur restait l'éclat. Mais tant qu'il y avait un peut-être, il leur restait l'éclat. Le peut-être est l'aiguillon du rêve, malgré la conscience de la noirceur du monde, donc, sans nécessairement abandonner la question de la lucidité, mais en affrontant même la noirceur du monde dans ce qui est appelé ici l'éclat. Donc sans se masquer la noirceur du monde dans une forme de mièvrerie. On retrouve cette figure du peut-être dans le premier roman de Goudis, Retour à la vie, Retreat for Oblivion, 1938. On retrouve ce point d'interrogation du peut-être avec même quelque chose d'indépassable, d'infini. Je cite. On se sent parfois englouti d'une sourde tristesse que viennent soudain dissiper un sourire et un rire. Et puis une autre tristesse, un sentiment délicat, beau, ineffable, vient s'y superposer, tout simplement. Et voilà qu'elle aussi s'efface, engloutie par un autre sourire, un autre rire. Parfois plus rien ne bouge. Reste la douleur et puis le rire. Et par-dessus, un grand point d'interrogation. Donc ici, le bouddhisme ne cherche pas à refermer les choses sur une certitude définitive. Il ne recherche pas à refermer les dés de la vie sur une certitude définitive. Il ne recherche pas à refermer les interrogations existentielles. Il n'y a pas chez Goudis de grand soir, ni amoureux, ni politique, qui transformerait en un clin d'œil le bonheur en absolu sans contradiction. Il n'y a pas de grande synthèse d'inspiration hegelienne, de prétention à l'harmonie finale. Il y a une quête sans fin qui garde les traces des rêves comme des blessures passées. Chez Cromley, ce peut-être est susceptible de revenir, de revêtir une forme iconoclaste. C'est par exemple, on lit quelque chose d'intéressant dans Les Serpents de la frontière, d'Oder Snitz, 1996, un dialogue. Je suis lesbienne, vous savez, dit-elle. Sougou répond. Je ne suis pas sûr que vous sachiez ce que vous êtes, dis-je. Et même si vous le savez, chérie, j'aime assez l'idée d'être amoureux d'une femme que je ne peux pas baiser. D'une certaine manière, je trouve ça pur et simple. Étrange. Je suis lesbienne, vous savez, dit-elle. Je ne suis pas sûr que vous sachiez ce que vous êtes, dis-je. Et même si vous le savez, chérie, j'aime assez l'idée d'être amoureux d'une femme que je ne peux pas baiser. D'une certaine façon, je trouve ça pur et simple. Il dit ça en s'adressant à Kate, une jeune femme qu'il croise au cours de ses pérégrinations. Et ce gros détective s'interroge de manière abrupte, disons, sur l'identité sexuelle de cette dernière. Et son interrogation va bousculer les identités figées. va leur préférer des identités mobiles, ouvertes, qui laissent place à l'incertitude. Le « je ne suis pas sûr que vous sachiez ce que vous êtes » de ce groupe signale une hésitation, un trouble, une perplexité dans la définition même de l'identité personnelle, dans la définition même donc du sens de son existence. On pourrait dire que l'utopique en tension avec le tragique dans des instants d'éternité annonce quelque chose comme le fil tragique d'un peut-être. Et dans ce fil du peut-être, quelque chose esquisse là, à distance à la fois des absolus religieux et du vide nihilisme. Quelque chose qui pourrait bien avoir avec une spiritualité non religieuse, comme une forme de réponse instable, erratique, au brouillage contemporain du sens, qui ne soit pas la réponse des absolus religieux, qui ne soit pas la réponse du vide nihiliste. À partir de ce trajet dans le roman noir américain et avec le roman un peu britannique, je voudrais déboucher en conclusion sur des rôles philosophiques nouveaux par rapport à ce qu'on a traité récemment. C'est-à-dire que cette double teneur à la fois existentielle et sociologique du roman noir est susceptible de nous amener à une autre question philosophique qui a d'ailleurs des conséquences politiques. C'est une question, des questions philosophiques qui sont posées par le philosophe donc Clément Rosset dans le sillage de Nietzsche, en s'appuyant sur un commentaire de Nietzsche. C'est sans doute dans le livre de Clément Rosset le plus stimulant, La philosophie tragique, date de 1960, Rosset a alors à peine 21 ans. Et Rosset, dans ce livre, fait du tragique le cœur de la condition humaine. C'est son hypothèse, s'appuyant sur les textes de Nietzsche. Qu'est-ce que ça serait le tragique? Le tragique, c'est ce qui nous échapperait et s'imposerait à nous, d'une certaine façon. C'est par exemple pour Rosset se cogner à la mort accidentelle d'un proche, dans des dimensions, écrit-il, insurmontables, irrémédiables et imméritées. Insurmontables, irrémédiables, imméritées. Dont on ne peut pas nécessairement attribuer la cause à telle ou telle personne ou à tel ou tel événement. Donc qui, d'une certaine façon, s'impose à nous. C'est en quelque sorte l'événement tragique, c'est, dans ses douleurs et parfois d'ailleurs dans ses joies, c'est quelque chose qui déborde alors les catégories morales traditionnelles. Or, l'hypothèse de Rosset dans le sillage de Nietzsche, c'est que les religions, les morales, et même les politiques du bonheur, les politiques socialistes, de gauche, etc., qu'ils mettent en plein sac. Ce qui est intéressant, c'est que Clément Rosset est quelqu'un qui est à droite et qui nous pose des questions intéressantes, plus intéressantes que beaucoup de gens à gauche. Pour Rosset, ces religions, ces morales, ces politiques du bonheur, donc qu'il met dans le même sac, créent des arrière-mondes. Créent des arrière-mondes, c'est-à-dire des mondes illusoires qui s'efforcerait de nous masquer le caractère tragique de l'existence humaine. Par exemple, en nous racontant que ce sera mieux demain, ou que c'est Dieu qui a décidé que, etc., etc. Toute une série d'éléments qui, sur les événements tragiques, vont nous donner des explications, vont remettre une sorte de cohérence, qui vont, d'une certaine façon, nous masquer le caractère tragique de la condition humaine. Et, justement, dans ce cas-là, contrairement à certaines interprétations ou certaines croyances, dans cette perspective, le surhomme nietzschéen, ce n'est pas celui qui n'est pas le nazi, ce n'est pas celui qui a des biscottos, c'est celui qui peut rire face à l'événement tragique. C'est celui qui peut rire d'un rire sarcastique face à la mort accidentelle d'un proche. On comprend bien pourquoi c'est un surhomme dans ce cas-là. On comprend bien pourquoi ça pose un problème par rapport aux réactions humaines habituelles. Alors, le problème qui se pose à nous à partir de Rosset, c'est dans cette perspective, l'utopique constitue-t-il aussi un arrière-monde illusoire qui nous masque le tragique de l'existence humaine, qui nous empêche de nous confronter au tragique, et donc est-ce qu'il faut éliminer l'utopique de notre imaginaire? Ça, c'est une question qu'on peut poser à travers Rosset et qui est intéressante. Alors, il me semble que Goodis et Cromley nous permettent de répondre, de commencer à répondre à la question de Rosset de manière un peu différente de Rosset. Est-ce que la réponse de Rosset, c'est oui, il faut abandonner l'utopie. Si on suit ce qu'on a vu chez Goodis et Cromley, comme Rosset, il récuse une éthique qui consentirait à l'oubli du tragique, c'est-à-dire tout leur rapport au monde est un rapport qui se confronte au tragique, qui n'est pas basé sur l'oubli du tragique, contrairement, disons, morale, religieuse, politique, etc. Mais, contrairement à Rosset, l'idée du bonheur comme aspiration à un mieux en fonction d'un certain système de valeurs, donc d'une morale, ne serait pas à jeter aux orties. L'utopique, si on suit Goodis et Cromley, ne serait pas qu'un arrière-monde, nous masquant le caractère tragique de la condition humaine. L'utopique, en tant qu'aspiration à un ailleurs, serait partie prenante du monde. Participerait de notre expérience du monde, avec le tragique. En tension avec le tragique, c'est-à-dire que dans cette perspective, l'utopique ne renverrait pas nécessairement comme le pense Rosset, parfois il renvoie à ça, mais ne renverrait pas nécessairement comme le pense Rosset à une sorte de couche superficielle et illusoire qui serait surajoutée au monde, mais se présenterait comme une composante du monde. C'est pas quelque chose qui serait là pour nous empêcher de saisir les rugosités du monde, c'est quelque chose qui aurait à voir aussi avec nos confrontations aux rugosités du monde. C'est-à-dire, les rêves d'ailleurs sont bien des produits d'ici-bas. Les rêves d'ailleurs sont bien des produits d'ici-bas. Ils ne sont pas ailleurs, les rêves d'ailleurs, ils sont bien produits ici-bas. Et même, on l'a vu, certains instants d'éternité viennent donner des points d'accroche incarnés, sensibles à ces rêves d'ailleurs qui sont d'ici-bas. Donc, si on pose la question de Rosset en voyant comment cheminent des éléments de réponse à travers, disons, Goodis et Cromley, donc à travers, disons, un matériau littéraire que celui du roman noir, on n'est plus amené complètement à éliminer l'utopique pour en faire un masque qui nous empêche de nous confronter aux dimensions tragiques de l'existence humaine. Mais au lieu d'envisager la condition humaine à travers un seul axe, un axe principal qui la définirait en propre, le tragique, on la définit à partir de deux dimensions et de leur tension, la dimension entre le tragique et l'utopique. On peut dire que c'est cette tension forte qui travaille et traverse le roman noir. Pourquoi alors ne pas nous coltiner aussi, comme les héros des romans noirs, des polars, les antinomies de l'aventure humaine, tragique et utopique, solitaire et solidaire, singulier et commun, pessimiste et optimiste, etc. C'est-à-dire, reconnaître la force de l'événement tragique avec Rosset et nos fragilités humaines face à lui, ce serait donc pas inéluctablement récuser la part utopique de nos existences. C'est le sens de la philosophie du peut-être, en général, chez Goodis et chez Cromley. Cette philosophie du peut-être, donc, qui définit l'être à la fois par la possibilité et par la certitude. On est bien sûr redevable à Clément Rosset de la question forte qu'il pose contre, disons, les mièvreries de gauche, on peut dire, en se confrontant directement au tragique. Mais on préférera à sa réponse unilatérale la philosophie, une philosophie politique de l'ambivalence qu'on trouve, je l'ai dit, dans le roman noir chez Goodis et Cromley, mais qu'on trouve dans la dimension philosophique chez Maurice Merleau-Ponty. Je terminerai là-dessus. On trouve ça chez Maurice Merleau-Ponty à la fin de son livre « Humanisme et terreur » de 1947, qui était un des écrits de son politique de Merleau-Ponty. Je cite « Le monde humain est un système ouvert ou inachevé, et la même contingence fondamentale qui le menace de discordance le soustrait aussi à la fatalité du désordre et interdit d'en désespérer. » Le monde humain est un système ouvert ou inachevé, et la même contingence fondamentale qui le menace de discordance le soustrait aussi à la fatalité du désordre et interdit d'en désespérer. Ainsi, pour Merleau-Ponty, la contingence de l'histoire humaine. La contingence, c'est-à-dire le fait que l'histoire humaine n'est pas déterminée à l'avance, donc elle peut s'orienter à chaque moment dans des directions différentes. C'est ça, la contingence, c'est que les choses ne sont pas nécessaires, elles ne vont pas dans une seule direction. La contingence de l'histoire humaine, ça part d'imprévisibilité, rendrait compte tout à la fois de sa composante tragique et de sa composante utopique. D'ailleurs, on ne pourrait pas choisir. C'est indissociablement qu'on aurait ensemble la composante utopique et la composante tragique, sans pouvoir choisir l'un ou l'autre, ensemble dans cette contingence de l'histoire humaine. Donc on aurait à la fois le tragique et l'utopique, la possibilité de la barbarie et la possibilité de l'émancipation, indissociablement, ensemble, avec une dimension d'incertitude. Cette mise en tension du tragique et l'utopique revêt bien sûr la tonalité mélancolique, puisqu'elle n'est plus calée simplement sur les lendemains qui chantent, mais qu'elle a gardé l'expérience des échecs, des impasses, des désenchantements. Elle a la tonalité mélancolique du peut-être. Et cette tonalité mélancolique du peut-être, c'est justement ce qui a éclairé notre traversée du roman noir américain à travers ce que j'appelle, moi, des lumières tamisées.